Vous écoutez France Culture.
Il est midi et demi sur France Culture. Voici le journal présenté par Lisa Melia.
Bonjour. Emmanuel Macron sera à Istanbul cet après-midi. Il va rencontrer ses homologues allemands, turcs et russes pour un sommet sur la Syrie. Il sera notamment question de la province d'Idlib, dernière poche de résistance au pouvoir de Bachar al-Assad dans le pays. Recrudescence de violence sur la bande de Gaza après un échange de tirs de roquettes entre Palestiniens et Israéliens qui met à mal les pourparlers pour réduire les tensions sous l'égide de l'Égypte. 5000 jeunes en service civique pour les réfugiés d'ici la fin du quinquennat. C'est le programme volontaire inauguré hier pour améliorer la prise en charge des jeunes migrants qui ont obtenu l'autorisation de rester en France. Des migrants qui participent eux-mêmes à ce programme, reportage dans ce journal. Elle s'appelle Carolina, elle vit à Sao Paulo, au Brésil. Elle se mobilise pour empêcher l'élection du candidat de l'extrême droite demain. C'est la dernière ligne droite dans l'élection présidentielle au Brésil. On y revient avec Sandrine Etoy-Andeg. La Bulle Écho cette semaine avec Anne-Laure Chouin. Nous parlerons des cartels en Europe. Après 7 ans de guerre et 400 000 morts, c'est une première. Dirigeants turcs, russes, allemands et français se mettent autour de la table cet après-midi à Istanbul pour un sommet sur la Syrie. Parmi les points qui seront abordés, la situation humanitaire, la question du retour des 5 millions de réfugiés syriens, mais aussi Idlib, dernier bastion rebelle du pays. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont déjà entretenus sur le sujet ce matin par téléphone, mais les divergences restent significatives entre la France et l'Allemagne d'un côté, la Russie de l'autre. Les précisions d'Aurélien Colli.
Emmanuel Macron l'a dit, les attentes sont modestes sur ce sommet. Le simple fait qu'ils se tiennent est déjà une vraie avancée, confirme une diplomate. Une première étape pour tenter de faire converger deux processus parallèles, celui des Occidentaux avec l'ONU, celui de la Russie avec la Turquie et l'Iran. Au programme des discussions d'abord, la dernière province rebelle d'Idlib, le cessez-le-feu négocié entre Moscou, allié du régime, et Ankara, parrain des rebelles, est fragile. Hier encore, des accrochages ont eu lieu. Il faut le conforter, le pérenniser, insiste l'Élysée, alors que le régime de Damas continue de le considérer comme temporaire, réclame le retour de la province sous son giron. Deuxième point, l'accès humanitaire. 6 convois sont bloqués à Damas, Paris et Berlin comptent sur Moscou pour faire pression sur le régime syrien et obtenir leur accès à la Ghouta orientale, au sud de la Syrie et à la province d'Idlib. Enfin, troisième sujet, de loin le plus délicat, la relance du processus politique. Sur la table, la création d'un comité constitutionnel pour rédiger une nouvelle constitution pour la Syrie. Il doit être composé d'un tiers de représentants du régime, d'un tiers de représentants de l'opposition et d'un tiers de personnalités indépendantes. C'est sur ce dernier tiers que le projet de l'envoyé spécial de l'ONU a été retoqué cette semaine par Damas. Et c'est sur ce dernier tiers que ce sommet quadripartite va tenter d'avancer pour que le comité puisse commencer ses travaux d'ici la fin de l'année.
Pour l'instant, l'Élysée n'a pas réagi à l'annonce d'un bombardement du régime syrien de la province d'Idlib. 7 civils y ont trouvé la mort, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est le bilan le plus lourd depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu négocié le mois dernier par la Turquie et la Russie. Une 30aine de roquettes tirées depuis Gaza se sont abattues dans le sud d'Israël la nuit dernière après la mort de 5 Palestiniens au cours d'un accrochage avec l'armée. L'État hébreu accuse la Syrie et l'Iran d'avoir piloté ces attaques. En représailles, l'armée israélienne a bombardé plus de 80 cibles dans la bande de Gaza. Ce matin, le groupe radical palestinien Djihad islamique annonce une trêve immédiate à la suite d'une médiation égyptienne. Une poussée de fièvre inattendue car un accord semble être en bonne voie entre Israël et le Hamas. À Jérusalem, la correspondance de RFI, Marine Vlaovic.
Sur le papier, un accord a été conclu entre Israël et le Hamas, annoncé hier le quotidien arabophone de référence Al-Hayat. Un accord à minima, pas encore officialisé, mais approuvé par la grande majorité des factions de la bande de Gaza. Ces conditions, l'arrêt des violences au cours des manifestations de la marche du retour, contre un maigre allègement du blocus israélien. Le lancement de ces roquettes sur Israël, revendiqué par le djihad islamique, était donc inattendu. Des attaques qui ont été suivies d'une riposte massive, mais réfléchie de l'État hébreu, car seuls des sites militaires et des immeubles vides ont été bombardés. Mais ce conflit pourrait prendre une nouvelle ampleur. Ces tirs de roquettes ont été ordonnés par la Syrie avec l'implication claire de l'Iran, affirme l'armée israélienne. Bien que sunnite, le djihad islamique palestinien, le deuxième groupe armé de la bande de Gaza, est idéologiquement proche du régime des Mollahs et ouvertement soutenu par Téhéran. Cette nouvelle escalade montre aussi l'opposition des branches armées de l'enclave palestinienne à négocier avec Israël, des réticences qui vont jusque dans dans les rangs du Hamas, alors que l'ONU et l'Égypte tentent depuis des semaines d'obtenir un cessez-le-feu permanent pour éviter un nouveau conflit entre le mouvement islamiste et l'État hébreu.
Marine Vlaovic, les suspects du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, seront poursuivis en Arabie saoudite. Déclaration ce matin du ministre saoudien des Affaires étrangères, alors que la Turquie a réclamé l'extradition de 18 suspects. Il a le profil parfait, à tel point que les plus fervents partisans de Donald Trump crient au complot. L'homme inculpé hier en Floride, accusé d'avoir envoyé 13 bombes artisanales à des personnalités du camp démocrate, est un sympathisant du président américain. Il a été identifié grâce à des empreintes digitales et de l'ADN retrouvées sur au moins l'un des colis suspects. Un peu trop facile, estiment certains pro-républicains qui parlent d'un complot organisé par les démocrates. Jair Bolsonaro réussira-t-il à décrocher la présidence brésilienne ? Réponse demain avec le second tour de l'élection. Le candidat polémique de l'extrême droite qui fait l'objet d'une très forte mobilisation contre lui sur les réseaux sociaux, mais qui reste quand même le favori. Le candidat de la gauche, Fernando Haddad, multiplie les meetings dans l'espoir de renverser la tendance et ses partisans se mobilisent pour convaincre les derniers indécis. Le reportage à Sao Paulo de Sandrine Etoa-Andegue.
Carolina passe ses journées à regarder en boucle sur son portable des vidéos des sorties de Bolsonaro.
Là, c'est la version raciste, ici la version misogyne et là, la version autoritaire.
La publicitaire a créé un groupe sur WhatsApp pour répondre à ce qu'elle appelle la campagne massive de désinformation du candidat d'extrême droite.
Là, regardez par exemple, on détourne la une du New York Times, là on s'adresse plutôt aux anti-PT qui votent contre lui, et surtout on réagit aux énormités de Bolsonaro et de ses partisans. Par exemple, c'est écrit sur internet qu'Haddad compte distribuer des biberons en forme de pénis aux enfants des crèches. Tout me choque chez cet homme. Ça m'affecte physiquement. Je ne vais pas bien, je ne dors plus, je pleure, je suis nerveuse. J'en fais une affaire personnelle parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à mon pays.
Carolina s'accroche à un espoir mince, une victoire de Fernando Haddad demain. Elle espère convaincre les indécis et tous ceux qui comptent voter blanc.
J'ai vu que d'après les sondages, ici à Sao Paulo, Haddad remonte un peu. Il se rapproche de Bolsonaro.
Mais pas au niveau national.
Le reportage de Sandrine Etoa-Andegue à Sao Paulo. Second tour des élections législatives au Gabon. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin dans 59 des 143 circonscriptions du pays. La majorité des sièges a été remportée dès le premier tour au début du mois d'octobre par le parti au pouvoir. Après avoir tenté de faire sécession, l'ancien président catalan Carles Puigdemont essaye de rassembler les séparatistes derrière lui. Depuis son exil en Belgique, il veut poursuivre le rêve d'une Catalogne indépendante. Mais beaucoup de ses anciens alliés, dont certains se trouvent aujourd'hui en prison, rechignent à rejoindre son nouveau parti, baptisé la CRIDA, l'appel, dont le congrès fondateur a lieu ce soir au nord de Barcelone. Trois jeunes entre 17 et 20 ans sont mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une bagarre entre bandes rivales dans le 20e arrondissement de Paris. Un jeune homme avait perdu la vie. Les rivalités entre bandes dans l'est de Paris et la banlieue nord ont causé plusieurs décès d'adolescents ces derniers mois. Des heures de cours de français, des visites de grandes institutions et des échanges avec de jeunes français. Voici quelques-uns des outils du tout nouveau service civique pour les réfugiés lancé en grande pompe hier par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du programme volontaire. Le principe, 5000 jeunes pourront effectuer leur service civique auprès des réfugiés à partir de l'an prochain. Parmi eux, 500 jeunes réfugiés aideront eux-mêmes à accueillir les nouveaux arrivants. Un système qui a déjà été expérimenté, Thibault Lefèvre.
Jouma est arrivé il y a 3 ans à Paris. Ce Soudanais quitte le Darfour quelques mois avant. Il traverse la Méditerranée, passe par l'Italie, puis obtient l'asile en France. Sa première expérience professionnelle est un service civique. Pendant 8 mois, il travaille avec 5 jeunes Français comme guide touristique.
À Notre-Dame, Château Versailles, quartier de Latin, les services civiques et... Ça permet d'adapter très vite à la culture française en fait.
Le programme volontaire est un échange puisque des jeunes Français s'engagent aussi en service civique pour aider des migrants. C'est le cas de Milena. Il y a 2 ans, elle devient volontaire à la mairie de Nintré, c'est près de Poitiers, pour favoriser l'intégration de 25 demandeurs d'asile.
Mon rôle, c'était de créer des rencontres. On a invité des gens à venir manger la galette. Et donc ça a permis aux demandeurs d'asile de découvrir cette culture française où on a une fève qui est cachée dans un gâteau. Ce qui fonctionne, c'est s'il y a quelqu'un sur place qui va vraiment être là comme relais, aussi bien entre les personnes demandeuses d'asile et réfugiés qu'avec les citoyens et la mairie.
Le budget de la politique d'intégration a augmenté cette année de près de 50%, presque 100 millions d'euros supplémentaires au service du programme volontaire, mais aussi de l'apprentissage de la langue et de la culture. Le nombre d'heures de cours de français a notamment été multiplié par deux.
Et en plus de ces quelques 400 heures de cours de langue, un accompagnement dédié en matière d'emploi est prévu. C'est le dispositif accompagnement en cas de vulnérabilité particulière. Il est l'un des visages de l'antiterrorisme en France. François Molins, procureur de la République de Paris, est nommé officiellement procureur général à la Cour de cassation. C'est le plus haut poste de magistrat du parquet en France. Midi 40 sur France Culture, la suite du journal.
La bulle économique,
Anne-Laure Chouin. La bulle économique s'intéresse aux cartels en Europe.
La Commission européenne inflige une amende record de près de 3 milliards d'euros dans une affaire de cartel. Elle estime que 5 constructeurs de camions se sont entendus pendant 14 ans sur les prix de vente de leurs véhicules.
Des amendes de plus en plus lourdes et des enquêtes de plus en plus nombreuses. Ces dernières années, la lutte européenne contre les cartels s'est intensifiée et elle a également démontré que les ententes entre les acteurs d'un même marché avaient la vie dure. Les cartels internationaux ne sont pas nouveaux. On fait remonter le prototype du genre en 1880, au tout début de l'ère industrielle. C'était le cartel germano-suisse des colorants qui s'était entendu aux dépens des producteurs plus petits, français, britanniques et italiens. Dans sa définition économique, le cartel est une entente formelle entre quelques producteurs pour contrôler un marché, soit en fixant les prix, soit en se partageant une zone géographique, soit en s'entendant sur des quotas de production, avec pour conséquence une hausse des prix pour le consommateur et pour objectif d'éviter la concurrence sur ce marché. On estime qu'en moyenne, un cartel permet de faire monter les prix de 20% au niveau national, de 30% au niveau international, ce qui explique aussi la persistance de ces ententes illicites malgré des amendes de plus en plus grosses. En Europe et aux États-Unis, la lutte contre ces ententes, bien qu'extrêmement difficile, a toujours été prise très au sérieux. L'exemple le plus célèbre reste celui dont le cinéaste Steven Soderbergh s'est inspiré pour son film The Informant, le fameux cartel de la lysine, un additif alimentaire. C'est une taupe qui avait aidé le FBI à prouver que les dirigeants américains de la firme ADM s'étaient associés à deux groupes japonais pour contrôler le marché.
Ça porte sur la lysine, mais aussi l'acide citrique et le gluconate. Un type a quitté la société parce qu'il ne voulait pas tremper là-dedans, ils l'ont mis à la porte. Quatre blancs en costume cravate qui se retrouvent en plein jour, c'est pas une réunion d'affaires, c'est une scène de crime.
En Europe, l'activité de ce qu'on appelle la DG Comp, l'organe européen de lutte contre les entraves à la concurrence, cette activité donc s'est largement développée ces dernières années. Elle pose comme préalable que le marché unique européen a été conçu et ne peut fonctionner que dans le cadre d'une concurrence libre et non faussée, concurrence censée par ailleurs créer émulation, innovation, compétitivité et baisse des prix. Et c'est pour cela que les moyens dont dispose la Commission européenne se sont musclées avec un outil notamment inspiré des Américains, un outil fort critiqué à ses débuts, mais dont il est indéniable qu'il a démultiplié l'efficacité de la lutte antitrust, les programmes de clémence. Le principe est simple, si une entreprise impliquée dans une entente se dénonce et apporte des preuves de cette entente, elle bénéficie de l'immunité ou d'une réduction substantielle de l'amende finale. Bref, la Commission fait appel aux repentis et ça fonctionne. D'abord, cela permet d'accélérer considérablement la procédure d'enquête, car charge aux repentis d'amener les preuves. Et puis, en instillant un climat de méfiance et de suspicion à l'intérieur de ces cartels, cela permet de les faire tomber plus vite. La mise en place de ce programme de clémence européen a causé la mort d'au moins un cartel sur trois depuis 1996, avec, en 2016, une véritable prise de guerre, la plus grosse amende jamais infligée par l'Union européenne, 2,9 milliards d'euros au seul cartel des camions. Plusieurs constructeurs européens de camions s'entendaient depuis 14 ans. Les Allemands Mann et Daimler, les Franco-Suédois Volvo et Renault et l'Italien Iveco, soit 100% du marché européen des constructeurs. Ils travaillaient depuis des années pour retarder l'arrivée de nouvelles technologies limitant les émissions de dioxyde de carbone, pour se mettre d'accord sur les prix et pour s'entendre sur les conditions de livraison. Ces amendes sont-elles suffisamment dissuasives pour empêcher l'apparition de futurs cartels ? Pas forcément. Très souvent, les entreprises préfèrent risquer de payer une amende en ayant engrangé des années et des années de chiffre d'affaires indus. Les économistes s'interrogent donc aujourd'hui pour savoir dans quelle mesure des sanctions pécuniaires beaucoup plus importantes jusqu'à 110% du chiffre d'affaires annuel ne seraient pas nécessaires, voire des peines de prison ferme, comme cela se pratique déjà aux États-Unis.
Le temps se rafraîchit ce week-end. Averses en pleine, neige en montagne sont au programme. Température entre 8 et 13 degrés sur la majorité du pays.